Bible de l'humanité de la Perse, chapitre 5, le Shahnameh, la femme forte. Cette sainte âme de la Perse, sous tous ces déluges barbares, s'était gardée, conservée dans la terre, comme une eau vive qui coule fraîche et pure aux fonds obscures des canaux oubliés. Vers l'an 1000 après Jésus-Christ, un génie vint qui eut le sens, le culte des vieilles sources sacrées. Et toutes furent rouvertes pour lui, riches autant que jamais, murmurantes, éloquentes de choses antiques qu'on aurait cru perdues. Je n'ai pas pris par caprice ou hasard cette comparaison des eaux. C'est que, très réellement, ces eaux qui ont fait la contrée firent aussi le poète. Elles furent la première inspiration de Firdousi. Les eaux qui se cachent et se montrent, se perdent et se retrouvent, qui, quelque temps nocturnes, obscures, reviennent à la lumière dire en gazouillant « Me voici !» Ce ne sont pas des personnes sans doute, mais elles ont l'air d'être des âmes qui furent ou qui seront, qui attendent l'organisation et la préparent. Un pays tout occupé d'elles, de leur évocation, de leur direction, de leur départ, de leur retour, fumé par cela seul, envoie de rêver l'âme, ses naissances et ses renaissances, d'espérer l'immortalité. Firdousi naquit musulman. Son père avait un champ près d'une rivière et d'un canal à sec. L'enfant allait toujours rêver seul près du vieux canal. Cette ruine de l'ancienne Perse parlait assez dans son silence. Elle avait fait jadis la vie de la contrée. L'eau, maintenant livrée à ses caprices, tantôt tarie et tantôt débordante, en était souvent le fléau. L'ancien paradis de l'Asie, le jardin de l'arbre de vie, d'où coulaient les fleuves du ciel, santé, fraîcheur, fécondité, cette Perse, qu'était-elle devenue? Le contraste était violent. Dans un seul canton très petit, 12 000 conduites d'eau, délaissées, dégradées, restaient pour glorifier l'Antiquité et pour accuser le présent. La torpeur et l'orgueil faisaient mépriser aux vainqueurs les arts sacrés des temps zoroastriques. Tout devenait désert, sable salé, marais morbide. Telle terre, tel homme. L'état de la famille était celui de la campagne. Dans la vie misérable du sérail musulman, elle était languissante, désolée et stérile. Le Genyuzloki parla. L'âme de la contrée s'éveilla chez l'enfant. Dans un vrai sentiment de guèbre, un élan tout zoroastrique, il dit à son canal, « Quand je serai grand, je te ferai dans la rivière un barrage, une digue, et dès lors tu n'auras plus soif. » De plus en plus uni à cette terre, il écoutait, ramassait, rédigeait toutes ces vieilles traditions, sans s'arrêter à l'anathème qu'a lancé Mahomet contre le culte du feu. Dès 16 ans, il se mit à les chanter, à les scander, à les consacrer par le rythme. Mais, par un respect singulier que n'ont guère les poètes, il se tenait fidèle aux vieux récits qui lui venaient du fond des siècles. Son traducteur, M. Moll, dans sa belle introduction au Shahnameh, observe qu'il ne flotte nullement au hasard de la fantaisie. Ses fautes même, dit-il, prouvent qu'il suit une voie tracée dont il ne veut point s'écarter. Et cela profite au poème. Ses figures ne sont point des ombres transparentes. Elles ont un caractère singulier de réalité. Qui a lu son Gustasp, son Roustem, par exemple, les a vus face à face et peut faire leur portrait. Qui eût cru que cette œuvre immense et si puissante pût arriver si tard en des temps de malheur, quand les flots de la barbarie passaient mobiles et violents ? comment, sur ce fond trouble, roulera-t-il le fleuve renouvelé des anciens jours? Peut-il être autrement que bourbeux, surchargé d'éléments variables, ou grossiers ou subtils? N'importe, qu'il est noble ce fleuve, qu'il part de haut et de quelle forte pente, dans quelle grandeur il court, de quelle sublime volonté. Un mystère est dessous qu'on ne nous a pas expliqué. Comment ce musulman, cet homme de la race conquérante, trouva-t-il au foyer des Perses une si étonnante confiance qu'ils lui livrèrent leur cœur, la tradition de la patrie? Il y fallut l'immense attraction d'un charmant cœur de poète, d'un homme enfant à qui on ne pouvait rien refuser. Possédé de l'ancienne Perse 60 années durant, il en glorifia l'âme, et cette âme émue vint à lui. Il se trouvait par grand bonheur que, partout, sous les conquérants, les chefs de famille indigènes gardaient, avec la vie patriarcale, le cher dépôt du vieux passé. Un nom même spécial, comme un sacerdoce historique, leur était affecté. On les nommait cultivateurs historiens. À ce foyer, le soir, porte fermée, la Perse revenait, les vieilles ombres, les naïves et sublimes dialogues d'Ormuz et de Zoroastre, les exploits de Djemchid, de Gustasp et d'Isfandiar, le tablier du forgeron qui sauva le pays. C'étaient les mères surtout, on doit le croire, qui perpétuaient, enseignaient la tradition. La femme, c'est la tradition elle-même. Plus lettrée en Perse qu'ailleurs, elle influait beaucoup dans ce pays. Elle était reine et maîtresse au foyer, et pour son fils, un dieu vivant. Le fils devant la mère ne pouvait pas s'asseoir. Les reines-mères, comme Amestris, Parisatis, semblent avoir régné sous leur fils. Dans l'Avesta, comme on a vu, l'ange de la loi est une femme. L'âme du juste est exprimée par le féminin Fravashi. L'idéal de la pureté est non seulement la fille enfant, la vierge, mais la chaste et fidèle épouse. Firdousi n'a nul souvenir de la femme musulmane vendue et achetée, captive. Il n'a peint que la femme perse. Les héroïnes, dans son livre « Fidèle à la vraie tradition », sont d'une fierté, d'une grandeur antique. Si elles pêchent, ce n'est pas par faiblesse. Elles sont rudement fortes et vaillantes, d'initiative hardie, de fidélité héroïque. L'une d'elles, au lieu d'être enlevée, enlève son amant endormi. Elles combattent avec leur mari, affrontent tous les hasards. Parmi elles, on voit déjà la Brunhilde des Nibelungen, l'idéal de la forte vierge qui dompte l'homme, qui, la nuit des noces, lie, enchaîne son mari. Mais tout cela, ô, est pur. Point de mauvais équivoque, point d'imbroglio burlesque, obscène, comme celui que les Meinesinger ont mis dans cette fameuse nuit. Ce qui est beaucoup plus beau qu'un si rude idéal de force, c'est l'héroïsme conjugal dont Firdousi s'est complu à multiplier les modèles. La fille de l'empereur de Roum, persécutée par son père pour avoir épousé le héros Gustasp, est admirable pour lui. Elle partage ses souffrances, sa glorieuse pauvreté. La fille d'Afrasia, le grand ennemi de la Perse, le roi de Tourane, laquelle s'est donnée pour mari à un jeune héros persan, le défend, le nourrit, le sauve. Quand le cruel Afrasia, pour prolonger ses douleurs, le scelle vivant sous une pierre, elle va quêtant pour lui. Noble image de dévouement que nulle histoire, nulle poésie n'a surpassée. À la longue, il est délivré, sa glorieuse épouse le suit en Perse, elle triomphe, est adorée, portée sur le cœur du peuple. Un hasard politique fut favorable à Firdousi. Un chef intelligent, Mahmoud le Gazuévide, devenu maître de la Perse, crut que pour s'affranchir du calife de Bagdad, il fallait faire appel au patriotisme local. Il fit un coup d'État étrange. Mahométan, il proscrivit l'idiome de Mahomet, défendit de parler arabe, adopta la belle langue persane mêlée de tant de mots anciens. Il fonda son nouvel empire sur cette idée de renaissance, voulut que sa langue persane reçût, renouvelât les souvenirs des héros. Mais pour lui donner le rythme et le charme populaire, il fallait un chantre inspiré. Il trouva à point Firdousi. Son enthousiasme pour lui ne connut point de bornes. Il le nomma le poète du paradis. Il voulait l'étouffer dans l'or. Firdousi refusa, ne voulant être payé qu'à la fin pour construire sa digue, se retirer à son canal et vieux, voir sa terre natale rajeunie de fraîches eaux. Mahmoud le logea chez lui-même, lui fit, dans ses jardins, un kiosque réservé où personne n'entrait qu'Ayaz, favori du sultan. Dans ce pavillon, on avait peint sur les murs les batailles et les héros que célèbre le poème. Firdousi, dans sa solitude, avait, outre les rossignols, un jeune ami lettré, un petit musicien dont la grâce et le luth éveillaient son génie. Dans le cours de ce long ouvrage qui devait remplir une vie, les choses changèrent étrangement. Mahmoud, n'ayant plus rien à craindre du côté de l'Occident, envahit l'Inde, dépouilla les pagodes, leurs trésors cachés. Son fanatisme intéressé ouvrit, brisa des dieux pleins de diamants. Dans cette réaction musulmane, ses envieux eurent beau jeu contre lui. Mis le bruit calomnieux coururent. Un jour il était schismatique, un jour guèbre, et enfin athée. Maître du palais, ils allaient jusqu'à l'oublier, l'affamer. Ils négligeaient de le nourrir. Firdousi avait 60 ans, et il avait perdu son soutien naturel, un fils âgé de 37. Le travail et la vie pesaient. Il était loin encore d'avoir terminé son poème. Dans ce moment de défaillance, il arrivait à la partie ardue et délicate, à l'époque où le héros Goustasp reçoit de Zoroastre, adopte le vieux culte et l'impose à toute la terre. Qu'allait faire le poète? Avouerait-il son respect pour ce culte? Serait-il pour Goustasp et pour la Perse antique, au moment où son maître, le redouté Mahmoud, redevenait zélé musulman? Cruel combat moral. Il sentit sa captivité, ce palais, ce kiosque, ces beaux jardins, qu'était-ce, sinon la cage en fer du pauvre chien mis près du lion? L'ombre était noire comme jais. La nuit marchait sans étoiles, dans un air qui semblait de rouille. Je sentais de tous côtés Ahriman. À chaque soupir qu'il poussait, je le voyais comme un nègre affreux qui souffle sur le noir charbon. Noir était le jardin, le ruisseau, le ciel immobile. Pas un oiseau, pas une bête, nulle parole en bien ni en mal. Ni haut, ni bas, rien de distinct. Mon cœur, peu à peu, se serrait. Je me levai, descendis au jardin, et mon ami vint me trouver. Je lui demandai une lampe. Il l'apporta, et des bougies, des oranges, des grenades, du vin, une coupe resplendissante. Il but, joua du luth. Un ange me fascinait, m'apaisait, de la nuit me faisait le jour. Il me dit, « Bois, je lirai une histoire. Oui, lui dis-je, mon svelte cyprès, mon doux visage de lune, conte-moi le bien et le mal que fait le ciel plein de contradictions. Écoute donc, cette histoire, tu la mettras en vers d'après le vieux livre Pelvi. La liqueur haïe du prophète et bénie de la Perse, le vin, lui raffermit le cœur. Le chant qui suit est le meilleur du Shahnameh, je crois. Il a beau assurer qu'il l'a pris au vieux d'Akiki, son prédécesseur, poète gabre. Il a beau soutenir que ce chant ne vaut rien, on ne l'en croira pas. lui-même, l'ayant fini, laisse échapper ce mot de joie grave et profonde. Voilà le monde et ses révolutions. L'Empire n'est à personne, il flotte. Qui le tient en est là. Ne sème pas le mal autant que tu peux l'éviter, mais prie le Seigneur, Dieu unique, de te laisser sur terre assez pour achever ce livre en ta belle langue. Puis que le corps mortel retourne à la poussière et que l'âme éloquente aille au saint paradis. Les zélés musulmans rejetèrent Firdousi. Les Parsis hautement le prirent pour un des leurs. Mahmoud, indisposé, dévot par avarice, se laissa donner l'indigne conseil de payer en argent ce qu'il avait promis de donner à Nord. Firdousi, alors Aubin, vit arriver le favori Ayaz avec 60 000 pièces d'argent. Sans se plaindre, il en donna un tiers au messager, le second tiers au baigneur et le reste à un esclave qui lui apporta à boire. Mahmoud était si furieux qu'il eût voulu le faire écraser par les éléphants. Firdousi l'apaisa quelque peu, mais prit son parti. Pauvre, après tant d'années de travail inutile, avec le bâton de voyage, une mauvaise robe de derviche, il partit seul. Il laissait à Ayaz un papier scellé qu'il devait ouvrir dans 20 jours, c'est-à-dire lorsque Firdousi serait déjà hors du royaume. On l'ouvre, on trouve avec terreur une satire hardie où il dit à Mahmoud, fils d'esclave, as-tu oublié que moi aussi j'ai une épée qui perce, qui s'est blessée, versée le sang. Ces vers que je te laisse, ce sera ton partage dans tous les siècles à venir. Là, je couvrirai, sauverai 100 hommes qui vaudront mieux que toi. C'était pourtant une terrible chose d'avoir un pareil ennemi qui le suivait, le réclamait, exigeait qu'on le livrât. L'infortuné vécut errant, déguisé sous cette terreur. Il avait 83 ans quand Mahmoud, approchant lui-même de la mort et du jugement, voulut expier, réparer. Il lui envoya l'or promis. Cet or entra par une porte de la ville où Firdousi venait de mourir, précisément au moment où le convoi sortait par l'autre. Il fut offert à sa fille, qui noblement refusa. Sa sœur l'accepta, mais seulement pour remplir son vœu d'enfance, exécuter sa volonté, bâtir avec cet or la digue qu'il avait promise au vieux canal et qui devait rendre au canton la vie et la fécondité. Ceci est-ce une digression? Un lecteur étourdi serait bien tenté de le dire. Eh bien, tout au contraire, c'est le fond du sujet. C'est l'âme. Cette âme de la Perse, évoquée primitivement par le mystère des eaux qui créa le pays, revient obstinément 3000 ans après Zoroastre et, contre toute attente, elle avive l'esprit musulman, l'inonde de sa bonté féconde et de sa riche inspiration. Le torrent des légendes, des sagas héroïques, avait toujours coulé par les voies populaires, mais couvert, obscurci du magisme. Les rites, les purifications n'étaient au premier plan, l'histoire des héros au second. Il fallut la conquête et l'effacement du magisme pour que les musulmans eux-mêmes, dans leur aridité, allassent chercher sous les ruines les 100 000 canaux disparus de la vie héroïque, pour qu'un génie les réunit dans son immense fleuve qui les porte à l'éternité.